carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Lydia Arambourg est historienne d'art, critique d'art et commissaire d'exposition. Elle tient depuis 1998 la chronique hebdomadaire des expositions dans la Gazette de l'Hôtel Drouot. Elle est correspondante à l'Académie des Beaux-Arts où elle a été élue en 2006 dans la section peinture. Connue pour ses nombreuses monographies de peintres sur André Brasillier, Yves Breyer, Bernard Buffet, Olivier Debré, Georges Mathieu, Choutet-Choune, Lydia Arambourg s'intéresse depuis des années aux peintres et aux sculpteurs qui ont marqué de leur empreinte l'art de la deuxième moitié du XXe siècle. Lydia Arambourg s'est imposée en 1993 avec un ouvrage majeur et remarqué, le Dictionnaire des peintres de l'École de Paris de 1945 à 1965. Ouvrage incontournable et épuisé, les éditions Ide et Calande ont décidé d'en assurer une nouvelle édition mise à jour par ses soins en novembre 2010. Souhaitons à cet ouvrage, l'École de Paris 1945-1965, Dictionnaire des peintres, qui recense plus de 800 artistes, dans lequel le lecteur, l'amateur d'art et le spécialiste trouveront 400 notices d'artistes avec des illustrations, eh bien on lui souhaite un succès similaire. Lydia Arambourg, bonjour.
Bonjour.
Alors, pour commencer, présentez-nous cette École de Paris qui compte parmi les grands chapitres de l'histoire de l'art du XXe siècle.
Eh bien, cette École de Paris, l'appellation est toujours avec une certaine ambiguïté dans la mesure où l'École de Paris, on pense tout de suite à l'École de Montparnasse, c'est-à-dire les débuts du XXe siècle. C'est André Varnaud qui, dans les années 20, dans un article paru dans Comédia, qui était une revue, lance le mot « École de Paris ». En fait, c'est un état d'esprit. C'est d'abord, bien sûr, un lieu, Paris, ville incontournable, capitale de l'art, capitale où se sont déroulés les grands combats et, je dirais aussi, les grandes conquêtes de l'art moderne. Donc, cette appellation, elle est encore une fois un petit peu complexe. Alors, à la fin de la guerre...
Est-ce que le terme d'école, parce que quand on parcourt le dictionnaire,
on comprend très bien
qu'il y a eu d'autres façons de
l'appeler. L'ambiguïté tient justement au nom d'école, parce que école, ça veut dire enseignement, ça veut dire une certaine esthétique, ça veut dire effectivement un enseignement qui est diffusé par une école. L'école, non, elle n'a pas du tout le sens littéral. Je crois qu'il faut penser à ce qu'était Paris, justement, au début du XXe siècle, comme ce que va être à nouveau la capitale dans les années 45-46, à la fin de la guerre, c'est une ville qui attire tous les artistes du monde entier. Parce que, encore une fois, c'est là où s'est fait l'art moderne, c'est là où on peut exposer, c'est là où on peut travailler, mais je dirais surtout où on peut travailler, exposer en toute liberté. Et c'est ce souffle de liberté qui va balayer vraiment la capitale juste après la guerre, qui fait que les artistes vont se retrouver. Il va y avoir des groupes, il va y avoir des familles, il va y avoir des nationalités de peintres et de sculpteurs qui vont se retrouver dans les deux quartiers qui sont vraiment les deux pôles emblématiques de la capitale artistique, c'est-à-dire d'une part Montparnasse, alors ça bien sûr c'est l'héritage de la première École de Paris, et puis cette École de Paris, cette nouvelle École de Paris, puisque l'appellation viendra sous la plume de certains critiques, dont Charles Estienne, effectivement, qui en 1952 parle de nouvelle École de Paris. Donc en fait, il faut
et
voir...
Et le deuxième quartier alors ?
Le deuxième quartier, c'est Saint-Germain-des-Prés. Voilà. Et ça, c'est tout l'existentialisme, c'est le jazz dans les caves, et c'est cet éclatement, c'est cette joie de vivre, c'est cette liberté qui vraiment... et sème partout, et la création va être fortifiée de ce courant et de cette liberté qui touche chacun.
Alors, l'École de Paris est attachée à ce que le public connaît sous le nom d'abstraction lyrique, parce que c'est en son sein qu'a émergé ce courant artistique à partir de 1945. Alors que s'est-il passé, Lydia Arambourg, dans la pratique et l'esprit des peintres qui vivaient à Paris au lendemain de
Alors,
la Seconde Guerre
mondiale ? Alors, il faudrait peut-être refaire un petit panorama de la situation de la peinture à la fin de la guerre. il y a bien sûr les grandes figures emblématiques, les grands aînés, je dirais, ce sont les modèles pour ces jeunes artistes qui arrivent. Alors il y a Picasso. Picasso, auquel le Salon d'automne va rendre hommage en 1944. Le Salon d'automne, d'ailleurs, momentanément, prend le nom de Salon de la Libération. Donc Picasso reste quand même la grande figure emblématique. Il y a celle de Matisse, qui est très importante, pour la couleur. Mais il y a aussi un autre peintre qui va beaucoup compter, c'est Bonnard. Bonnard pour la lumière et pour la couleur. Il ne faut pas oublier non plus, sur le plan de l'abstraction pure, quelqu'un comme Kandinsky, mais surtout un autre peintre qui va être déterminant, c'est Paul Klee. Alors, on est dans cette situation d'une figuration, d'une part, qui continue, bien sûr, son chemin à être très présente d'abord par le biais de l'École des Beaux-Arts et aussi par l'Académie. Mais l'École des Beaux-Arts reste quand même le lieu où on enseigne, où on apprend à peindre. Il y a aussi toutes les académies libres qui sont à Montparnasse. Donc il y a notamment l'Académie d'André Lhote, l'Académie d'Othon Friez. Donc ça, ce sont les deux académies, on va dire, qui sont encore assez classiques. Mais il y a toutes les académies libres, c'est-à-dire qu'on peut arriver avec son carton à dessin, on s'installe et on travaille et on dessine d'après le modèle vivant. Donc ça, c'est très, très important. Donc, il y a cette effervescence, il y a vraiment quelque chose de très dynamique. Toutes les forces vives sont là, qui vont se rencontrer. Il va y avoir des divergences, des convergences. Tous les courants se mêlent. Mais très vite, il va y avoir des prises de position qui vont être celles données par certains critiques. Donc, il va y avoir des grands courants qui vont s'établir. Alors, l'abstraction lyrique, c'est un de ces courants, mais il n'est pas le seul. Parce que je vous parlais donc de cette figuration qui va continuer. Il y a l'abstraction géométrique, dite froide, qui est issue du Bauhaus. Et puis, il y a l'abstraction lyrique, dite chaude. Alors, ces deux abstractions vont être concomitantes, mais vont être rivales.
C'est elles qui vont engendrer cet esprit, cette dynamique.
Il faut savoir qu'il y avait en permanence des critiques qui s'invectivaient, qui se répondaient par, bien sûr,
par articles. Voilà. Salons.
Il y avait Combat, notamment. Combat, et puis il y avait les Lettres françaises, entre autres. Mais il y avait aussi Le Figaro, il y avait Art, il y avait quantité de revues, des quotidiens, mais aussi des magazines.
L'art avait une importance plus importante dans la, on va dire, dans la presse, dans son accès au public qui pouvait
elle
lire.
Elle avait une visibilité
plus importante.
Et il y avait surtout une grande liberté, encore une fois, une liberté de regard, une liberté de pensée, mais une liberté de regard. Donc, ces deux abstractions qui sont rivales et qui vraiment s'opposent avec énormément de violence. Hein, parce que quand on lit les articles, notamment de Combat, où il y a Charles Estienne, auquel répond Léon Degant, et puis également André Breton, c'est extrêmement violent. Mais la rivalité, et ça c'est une chose qu'il faut que le public sache, c'est qu'on peut penser que c'était beaucoup plus opposé entre les abstraits et les figuratifs. Pas du tout, les figuratifs étaient beaucoup plus tolérants envers les abstraits. Vraiment, les deux grands ennemis, je dirais, c'étaient les abstraits lyriques et les abstraits géométriques. Donc, ces deux factions vont effectivement engendrer des prises de position qui sont prises par des critiques notoires, qui vont écrire, qui vont être en quelque sorte les porte-parole et aussi qui vont être au cœur des galeries qui vont s'ouvrir. Parce que les galeries
vont
bien
aussi
sûr,
se déterminer en fonction de
les
tous
galeries
ces courants.
Vont avoir leurs artistes et tout ça dans des factions qui sont bien bien déterminées.
Vous pourriez nous donner un ou deux noms de galeries justement alors, il y a... combattantes de
ah, oui,
cette
oui.
époque.
Alors justement l'abstraction géométrique froide. Oui. Il y a une galerie bien sûr, c'est Denise René. Denise René qui ouvre sa galerie rue La Boétie à la fin des années 40 et qui va défendre jusqu'à maintenant, puisque la galerie existe toujours, il y a même deux galeries aujourd'hui, toujours boulevard Saint-Germain et puis rue Charlot. À l'époque, Denise René ouvre rue La Boétie et elle va avoir donc des artistes qui sont complètement engagés dans l'abstraction géométrique. Et un des premiers, c'est Vasarely, bien sûr. Vasarely, Mortensen, il va y avoir des artistes comme aussi au départ, elle prend des artistes qui sont d'une autre génération, c'est-à-dire des gens comme Domela, des gens comme Van Doesburg, comme Delaunay. Et elle va créer aussi très vite un prix qui va couronner un jeune artiste d'obédience abstraite, géométrique. Ça va être le prix Kandinsky.
Il y a une vitalité et une volonté de faire connaître et de révéler les
alors,
artistes.
Alors, il y a un côté très pionnier, ça c'est vrai. Très, alors, offensif, vous l'avez compris, parce qu'on est dans la bagarre tout le temps, mais la bagarre qui est fructueuse, qui est féconde, parce que cette bagarre, elle doit justement imposer, elle doit révéler aussi des jeunes talents. Alors, je vous parlais de Denise René pour l'abstraction géométrique. Pour l'abstraction lyrique, il y a des quantités de galeries. Je dis des quantités parce que, curieusement, elles vont être assez éphémères. Et curieusement, ce sont des femmes. La galerie Lydia Conti, la galerie du Luxembourg, la galerie des Deux Îles, ce sont des dames qui ouvrent ces galeries, qui vont être effectives, actives pendant quelques années. Et ce sont des galeries, notamment celle de Lydia Conti, qui est fondamentale parce que Lydia Conti, en 47, va faire deux expositions. L'une de Hartung, Hartung qui est d'une autre génération, mais qui expose pour la première fois à Paris en 1947, alors qu'il est déjà tout à fait mûr, avancé dans son travail, dans son œuvre. La deuxième exposition...
Et qui sera membre de l'Académie des Beaux-Arts.
La deuxième, c'est toujours en 47, Schneider, grand abstrait lyrique aussi. Et la troisième, en 48, ce sera Pierre Soulages. Alors voilà vraiment une galerie qui est fondamentale. Et puis, parallèlement, très vite, nous avons Georges Mathieu qui peint déjà d'une façon, je dirais, presque naturelle et spontanée, sans avoir appris, parce que Mathieu n'a pas appris la peinture dans le sens où il n'a pas suivi une académie, une école de peinture. Et Mathieu s'aperçoit qu'il peint spontanément, comme ces peintres qu'il découvre dans les galeries. Et au départ, Mathieu va être celui qui va organiser des expositions pour montrer justement la peinture de ses contemporains et de ses artistes. Alors, il organise, parfois il s'intègre lui-même dans ses propres expositions, mais il faut savoir que les premières expositions d'abstraction lyrique, c'est Mathieu qui les organise. Et il invite d'ailleurs des artistes américains. Et c'est là alors la première confrontation entre les artistes français et les artistes américains dans les années 48, 49, 50, dans ces galeries que je vous ai citées tout à l'heure. Et Mathieu est le premier à avoir montré la peinture américaine, justement à Paris. C'est-à-dire des gens comme Pollock, des gens comme Gorky. Il les révèle vraiment au public, de Koenig.
Alors, est-ce que justement ce mot d'école dont on parlait tout à l'heure, pour désigner et réunir ces peintres, était-il approprié quand on comprend à la lecture de votre ouvrage et à ce que vous nous dites, l'extrême diversité stylistique de ces courants, leur opposition? Comment se reconnaissaient-ils vraiment dans leur faction ou...
C'est un état d'esprit.
C'était un état d'esprit,
c'est un état d'esprit
vraiment...
parce qu'ils sont à Paris et qu'ils travaillent, ils exposent. Si vous voulez, c'est comme un vivier. Je pense que le mot école doit être pris dans ce sens. C'est vraiment un vivier dans lequel il se passe énormément de choses. Il y a des influences, il y a au contraire des refus, des rejets. Mais tout ça fait qu'il y a une matière extrêmement féconde qui nourrit. Il y a surtout cette possibilité aux artistes d'exposer. Alors là, il y a bien sûr les galeries. Je ne peux pas le citer toutes. Mais à côté des galeries, il y a aussi les salons. Il y a deux grands salons qui voit le jour juste après la guerre, c'est le Salon des réalités nouvelles, donc d'obédience, vous avez compris, abstraite, géométrique. Et là, c'est donc les artistes de Denise René qui sont pour la plupart soit héritiers issus de ce qu'on a appelé art concret. D'ailleurs, une des premières expositions de René Drouin pour défendre et soutenir cette esthétique, c'est l'exposition en 1945 dans la galerie de René Drouin qui s'appelle « Art concret ». Mais il y a toujours, voyez à chaque fois, René Drouin montre ses artistes géométriques, mais juste avant la guerre, en 44, 45, et puis après 46, 47, c'est lui qui montre Fautrier, les otages en 45, c'est René Drouin. Et puis il montre aussi les hautes pattes de Dubuffet. Donc voyez un petit peu tout ce qui se passe dans ces quelques années entre 45 et 50, tout ce qui va se passer. Autre chose. Abstraction lyrique, abstraction géométrique. Et la figuration, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle fait pendant ce temps-là? Ben, elle est aussi offensive. Et elle est là et elle se montre. Il y a un prix de la critique. Le prix de la critique est décerné d'abord à un artiste figuratif. Et comme il faut bien avoir une réaction contre cette double offensive abstraite, il y a l'homme témoin, le critique Jean Bourret, qui va affirmer que dans la peinture, il y a un sujet. Le sujet ne doit pas être négligé. Il y a surtout la figure humaine. Et ça, c'est très important. Donc, l'homme témoin, eh bien, en 47, 48, 49, puisque c'est à cheval, 47, 48 et puis 49, deux manifestations qui exposent dans ces salons, dans ces deux manifestations de l'homme témoin, Bernard Buffet. Et Bernard Buffet a eu le prix de la critique en 1947 avec Lorjou, qui était son aîné. Mais qui retrouve-t-on dans cet homme témoin? On retrouve des artistes comme Rebérolle. Rebérolle qui va avoir un parcours passionnant parce qu'il va à un moment donné s'éloigner, mais sans jamais vraiment rompre avec la figure. Mais il va introduire la matière, il va introduire des quantités d'éléments extérieurs à la peinture pour justement faire sortir cette expression et donner un coup de poing sur la table. Donc là aussi, ça voulait dire qu'il y a cette peinture qui est combative. Elle est combative.
Elle est combative au sortir de la guerre, là. Comment ces peintres se sont fait les héritiers de ces traumatismes ?
Ça, c'est un petit peu subtil, c'est un petit peu délicat, parce que je crois que ce sont les peintres eux-mêmes qui peuvent en parler. Ils m'en ont beaucoup parlé parce que tous ces artistes que j'ai recensés, c'est vrai que beaucoup étaient encore en vie. Quand j'ai commencé ce travail, qui m'a demandé à peu près 8 années, je ne faisais que ça. C'était vraiment mon grand œuvre, si je peux me permettre, parce que je travaillais vraiment à ce livre qui était pour moi quelque chose d'extraordinaire, qui a été aussi le livre qui m'a permis de rencontrer tous ces artistes, qui étaient en pleine activité pour beaucoup d'entre eux. Certains étaient déjà partis parce que, vous l'avez compris, il y a quand même presque 3 générations. Mais disons qu'en gros, il y a 2 générations. La génération de Breyer n'est pas celle de Bernard Buffet. Et la génération d'Artung n'est pas celle de Devanne. Donc, ils m'ont parlé effectivement de cet après-guerre. Et bon, chacun le vivait suivant, je pense, d'abord sa vie personnelle, suivant ses engagements politiques. Mais je crois que c'était l'art qui était prioritaire parce que d'abord, c'était leur moyen d'expression, c'était la façon de se réaliser pour eux. Ça passait par la peinture ou par la sculpture. Et ce qui était important, c'était de travailler, c'était de peindre et c'était de sculpter. Je ne veux pas dissocier la sculpture de la peinture, mais là, nous sommes quand même avec la peinture. Ils ne pouvaient pas dissocier, ils ne pouvaient pas rester dans cette espèce de... Oui, ils m'ont dit que c'était une époque extraordinaire. Extraordinaire parce que tout était possible. Il y avait tout à faire.
Comment ont-ils digéré le traumatisme de la guerre ?
Alors, il y en a un qui l'a très mal digéré, c'est Bernard Buffet. Sa peinture est complètement imprégnée.
Fautrier aussi.
Oui, Fautrier, c'est-à-dire qu'il l'a fait passer par ce qu'on a appelé les otages. Mais je crois que c'est plutôt Jean Pollan qui avait trouvé le terme. Je pense que pour Fautrier, je ne sais pas si... Enfin, toujours est-il que ça passe chez certains dans leur peinture, chez d'autres, ça ne passe pas du tout dans leur peinture. Les abstraits lyriques, ça ne se passe absolument pas dans leur peinture. Non, ça se passe. Et les abstraits géométriques non plus. Il y a une peinture qui est là, il y a une urgence, parce qu'il y a l'art qui demande, qui attend, et leur travail est prioritaire.
Alors, comment expliquez-vous ce dynamisme de la scène artistique française sur une période si courte ? Parce que 20 ans qui ont révélé des artistes internationalement, vous en avez parlé, mais 20 ans, c'est à la fois court et très long. Vous avez évoqué tout à l'heure 2 générations, presque 3. Donc, c'est intéressant, cette périodisation, parce qu'on imagine mal aujourd'hui des élans artistiques aussi forts, aussi visibles, où les générations se fécondent vraiment de façon visiblement majeure. Comment expliquez-vous ce dynamisme sur ces 20 ans ?
Je pense que ce qui s'est passé justement, pour revenir à votre question précédente, c'était peut-être lié à la guerre, à toutes ces souffrances, à ces drames, le côté inhumain. C'est vrai qu'il y avait cette souffrance qui était là, et donc après, il y a eu cette libération, cette espèce de... C'était la soupape, vous voyez, qui explosait. Donc, sur le plan peinture et sculpture, il y a une continuité. Rien n'a jamais été rompu. C'est-à-dire que voilà des artistes qui apprenaient, qui fréquentaient encore une fois, soit l'école des beaux-arts, soit les académies. Et puis, il y avait toute l'antériorité, c'est-à-dire qu'il y avait des grands modèles, je vous ai parlé au début. Donc, effectivement, ils étaient là. Et quand le Salon de Mai ouvre en 1945...
Ils sont là de leur présence.
Ils sont tous là. Ils sont tous là. Alors, vous pensez bien que... Une continuité comme celle-ci, qui est quand même une de nos grandes valeurs dans notre école française, c'est qu'il n'y a quasiment pas de rupture par rapport aux autres écoles. C'est à chaque fois la continuité, on peut dire, depuis le XVIe siècle, depuis la Renaissance. Et il n'y a pas d'acquis, il n'y a pas de progression, mais à chaque fois, il y a des conquêtes, bien sûr, mais il y a des ruptures pour reconquérir, mais il y a une continuité. On est toujours dans cette peinture qui continue, et après la guerre, ça continue. Mais forcément qu'il y a des réactions. Alors, il y a ces abstraits lyriques qui ont une audace folle parce qu'ils décident que maintenant, ça passe par le signe, ça passe par la vitesse, la spontanéité. Donc, il y a un langage, une écriture qui sont complètement différents. Mais on est quand même dans la peinture. On est toujours avec le matériau peinture, c'est-à-dire des pinceaux, même si après, on peut aussi travailler avec le tube. Alors, il y a le tubisme, etc., comme a pu faire Mathieu et d'autres, et Pollock et d'autres artistes. Mais on est toujours avec ses outils, avec ses mains, avec la pensée, parce que tout ça est extrêmement pensé aussi.
Alors, comment ces peintres ont-ils été perçus au moment, justement, de leur élan très créatif, là, entre ces années, entre 1945 et 1965? Ils ont été visibles, on va dire, sur la scène artistique française. Et comment leurs peintures, leurs sculptures ont-ils été perçues, à la fois par les amateurs d'art, mais surtout par le public?
Mais le public était très attentif. Il y avait tellement de manifestations. Il y avait donc ces salons. Il faut savoir que le salon de mai, par exemple, il y avait tous les plus grands. Hein. Et le principe était qu'un aîné invitait un jeune. Et c'est comme ça que Mathieu est invité par Gerbet de Richier. Que... Il y a vraiment, vous voyez...
C'est des regards croisés, des relations transgénérationnelles.
Le public attend chaque année, dit « Ah, voyons, quel est le tableau que va montrer un tel ?» Bon, alors, c'est Max Ernst pour les grands aînés, c'est Matisse, c'est beaucoup d'autres. C'est la BIS, c'est... Tous les courants sont représentés.
Donc, les gens perçoivent...
Il y a les galeries. Il n'y a jamais eu autant de galeries. Et alors, une presse artistique qui est extrêmement vigoureuse et qui est très présente. On est curieux. Par exemple, la Maison de la Pensée Française, eh bien, c'était bien sûr le fief du Parti communiste, mais il y avait des manifestations artistiques de tous les horizons. Et on venait, il y avait la Galerie Charpentier, Faubourg Saint-Honoré, où Raymond Nassenta organisait, dès les années 53, je crois, 52-53, jusqu'aux années 64, donc pendant une dizaine d'années, tous les ans, vous avez un salon qui s'appelle l'École de Paris. Et là aussi, le nom est repris, l'École de Paris. Côté faction abstraite lyrique, Charles Estienne va lui aussi se dire « il faut que j'avance moi aussi et que j'ouvre des brèches ». Ça va être le salon d'octobre. Il y a deux salons d'octobre, en réaction déjà contre le salon de mai. Donc vous voyez, il y avait toujours ces espèces de réponses, ces combats, ces joutes, des joutes par critiques interposées. Et c'était permanent.
Alors, quand est arrivée la reconnaissance institutionnelle? Elle a été immédiate ou plus tard? Comment?
Ah.
C'est la question qui fâche?
Un petit peu, parce que cette génération, c'est vrai, a beaucoup pâti de ce qui s'est passé après. Alors, vous parliez de 20 années, 1945, 1965. On pourrait presque dire 1941, parce que la première manifestation qui fait que les choses bougent, frémissent, c'est cette exposition organisée par Jean Bazaine à la Galerie Brown, avenue de l'Opéra, en 1941. 20 jeunes peintres de tradition française.
Les mots qui fâchent, c'est ça?
C'est-à-dire que non, ça ne fâche pas. Ça va fâcher justement après les abstraits lyriques qui vont taxer tous ces peintres de... Alors, ces peintres, qui sont-ils? C'est Bazaine. Mais vous avez Bissière. Et Bissière, c'est l'Académie Rançon. Là aussi, grand héritage de la peinture. Et Bissière a toujours refusé que ses élèves, qui n'étaient pas des élèves, c'était des confrères qui étaient plus jeunes que lui. Il y avait une sorte de fratrie, de compagnonnage. Bissière enseignait la peinture. Il n'a jamais voulu qu'on lui donne le nom de professeur. Mais de qui est-il entouré? Il est entouré de Manessier, de Berthold, de Singier, de Vera Pagava, d'Elvire Jean. Alors, chez les sculpteurs, c'est Staly, qui était aussi un académicien, d'Étienne Martin, également académicien. Donc, vous voyez, quand je parle de continuité, c'est ça. Mais c'est aussi des gens qui s'ouvrent à quelque chose de nouveau, c'est-à-dire qu'ils sont dans l'héritage du cubisme, ils sont dans un héritage de la composition, de l'écriture, ils ne veulent pas rompre avec le réel, mais ce réel, ils veulent le transposer. Et ça devient de la non-figuration. Donc, ils sont face à l'occupant et il y a une position extrêmement audacieuse, parce que cette exposition a lieu en pleine occupation, il faut le savoir. Et cette exposition est vue. Et en 43 et 44, il va y avoir d'autres peintres, toujours de ce même groupe, qui vont exposer. Galerie de France, Billiet Caputaud d'abord, qui devient après la Galerie de France, et chez Drouin. Et alors, là, il y a déjà, vous voyez, quelque chose qui commence à se passer. Alors, la reconnaissance, non, elle est toujours en attente. Elle est en cours, je dirais, mais elle n'est pas complètement faite. Parce que beaucoup de ces peintres, d'abord, ne sont pas toujours sur les cimaises de nos musées. Et puis, il y a eu cet événement qui a fait que subitement, les pages se sont tournées, mais extrêmement vite. Donc, 1941, vous voyez, ça commence un petit peu avant. 1964, Biennale de Venise. Le prix de la Biennale devait être décerné à Bissière. Et puis un tour de passe-passe financier. C'est Rauschenberg qui a le prix. C'est l'Amérique. Et là,
c'est presque
la peinture française est mise de côté. Alors,
Une page qui se tourne.
C'est une page qui se tourne. Restani, à ce moment-là, est en train de soutenir un groupe de jeunes artistes. Ce seront les nouveaux réalistes. Alors que Restani avait défendu cette abstraction lyrique. Il a très bien écrit sur ses peintres. Mais voilà, il passe ailleurs. il les laisse. Et puis, il y aura après le pop art. Donc, tout à fait autre chose. On passe dans un autre monde, dans un autre domaine.
Et alors, ils ont été redécouverts ces dernières années, mais
alors,
donc, cette
ils sont
reconnaissance...
redécouverts progressivement. D'abord parce qu'il y a des grands noms qui, forcément, vous savez, comme dans toute génération d'artistes, il y a effectivement, il y a les pionniers. Il y a, c'est un peu une pyramide, hein, mais pour que la pyramide tienne, il faut aussi qu'il y ait des fondations. Donc, effectivement, au sommet, vous avez, il faut reconnaître, les grands noms, c'est en abstraction lyrique, c'est quand même Mathieu. Mais c'est Hartung, c'est Schneider, c'est Poliakov, c'est De Staël, je n'ai pas encore parlé de lui, mais il y en a tant et tant. C'est Olivier Debré. Donc, vous voyez, c'est progressif, si vous voulez. Il y a une espèce de hiérarchisation qui se fait parce que certains ont d'abord ont été plus présents sur la scène que d'autres. Et puis, il y a ceux qui étaient là quand même et qui sont des très beaux peintres. Donc, la reconnaissance, elle est lente, elle est difficile. Alors, curieusement, je dis curieusement parce que je n'aime pas mêler... les cotes et le marché de l'art à l'histoire de l'art, mais c'est vrai que ça passe par ça. Mais ça passe aussi par une espèce de spéculation, il faut bien le reconnaître. Donc ces peintres sont revenus sur la scène dans les années 90, et puis à nouveau, il y a eu un creux de la vague, et puis de nouveau maintenant, eh bien, il y a un intérêt qui réapparaît pour tous ces artistes, mais certains ne sont pas toujours et n'ont pas, sont loin d'avoir la place qu'ils devraient avoir sur les cimaises de nos musées.
Dans cette continuité de la peinture que vous évoquez, Lydia Arambourg, on peut citer Chu Tae-chun, également Zhao Wuqi, qui sont membres de l'Académie des Beaux-Arts et auxquels vous consacrez une de ces 447 notices.
Oui, oui.
Mais
c'est-à-dire
pas
qu'il y a
n'importe
des notices
lesquelles.
Qui sont. Ben, c'est-à-dire qu'il y a des peintres forcément qui ont nécessité des textes plus longs. Alors là aussi, on comprend très bien ceux qui effectivement étaient sur la scène et qui étaient importants et qui comptaient parmi les pionniers de ces mouvements.
Lydia Arambourg, pouvez-vous évoquer pour nos auditeurs la toile de Zhao Wuqi qui date du 2 avril 1960 et qui figure dans cet ouvrage avec une très très belle reproduction.
Alors Zhao Wuqi et Chu Tae-chun, qui sont donc compatriotes, ils sont d'origine chinoise, ils sont nationalisés français, donc c'est pour ça qu'ils ont pu être élus à l'Académie des Beaux-Arts. Mais ils ont été tous deux dans une grande école des Beaux-Arts, celle d'Hangzhou, et donc ils étaient tous deux élèves dans cette école, ils se sont retrouvés après à Paris. Zhao Wuqi est arrivé à Paris dès 46-47, il arrive à Marseille par bateau, Chu Tae-chun arrivera de la même façon, par la mer, et lui beaucoup plus tard, je dis beaucoup plus tard parce que c'est vrai qu'il s'était déjà passé beaucoup de choses, que je dirais les choses étaient déjà en place quand Chu Tae-chun est arrivé en 55 à Paris. Vous imaginez, 7-8 ans, c'est énorme parce que tout se fait vraiment à la fin des années 40 et début des années 50. Donc, tous deux ont reçu une formation éminemment classique, d'origine, bien sûr, au départ, c'est leur peinture, la calligraphie, ce sont tous deux d'admirables calligraphes. Donc, on a cette continuité au niveau de leur culture nationale. Mais ils apprennent aussi l'art occidental. On leur parle de Rembrandt, on leur parle de Cézanne. Et quand ils arrivent en France, eh bien, c'est cette peinture qu'ils veulent aller voir. Ils veulent aller vérifier que ce qu'ils ont appris à travers des reproductions, eh bien, ils le vérifient d'une façon vraiment tactile, d'une façon physique. Donc, il y a ce métier admirable de peintre. Alors, cette toile de Zhao Wuqi, qui est de 1960, eh bien, c'est une toile qui représente, je pense, ce sont surtout des paysages mentaux. C'est-à-dire qu'il y a cette retranscription d'un vécu, d'un paysage qui n'est peut-être pas identifiable, mais qui s'appuie sur les éléments. Ce sont l'air, l'eau, le feu, et il y a le signe, ce fameux signe qui était si important pour les abstraits lyriques, puisque tout reposait sur ce signe, comme l'a très bien analysé Mathieu dans son ouvrage « L'embryologie des signes ». Et donc, on a une toile, une peinture qui recherche toujours quand même un sentiment d'espace, mais qui n'est plus appréhendé de la même façon que pendant tous ces siècles de peinture traditionnelle avec la troisième dimension. Là, ça passe autrement, il y a un souffle. On sent très bien que le geste est là, et ça, c'est important, parce que le geste est extrêmement dynamique et rapide pour donner justement ce sentiment d'instantanéité.
Alors, inversement, dans un autre courant stylistique, mais toujours de cette école de Paris. Quelle serait la continuité chez Yves Breyer, que vous connaissez bien ?
Alors, Yves Breyer est d'une autre génération. Alors, c'est vrai qu'il fait partie de cette école de Paris parce que, d'abord, il a vécu très longtemps. Donc, forcément, l'œuvre est aussi dans le temps, ses 60 ans de peinture. Mais il avait déjà une œuvre avant la guerre. Et cette œuvre, elle se poursuit, bien sûr, après la guerre. Alors, Yves Breyer, c'est la même chose. Nous sommes dans une tradition de peinture classique. Je dis classique parce que c'est quelqu'un qui sait composer.
Pour simplifier les choses, pour ceux qui n'ont pas l'image sous les yeux, oui, mais qu'ils vont retrouver sur le, oui, site, que c'est, j'allais dire, un peintre figuratif.
C'est un peintre figuratif, donc qui reste attaché au sujet. Le sujet est important. Donc, il faut effectivement, et là, c'est la joie, c'est le bonheur de la peinture pure, et de, par la matière, par la couleur, transmettre une émotion et le plaisir aussi de composer d'une façon harmonieuse.
Lydia Rambourg, à propos d'Yves Breyer, est-ce que vous pourriez justement nous décrire par exemple sa toile de 1957, Nature morte au bouquet ?
Il y a une banquette avec un tissu, avec des motifs géométriques, une guitare, à côté une petite table. Alors tout ça peut sembler bien sûr assez banal, assez traditionnel, mais nous sommes avec un peintre qui sait composer et qui a le sens vraiment de la couleur, de la harmonie, qui s'est vraiment orchestrée à la fois par le dessin et par la couleur, une composition.
Lydia Rambourg, merci d'être venue parler de ce dictionnaire, de cette nouvelle édition, d'être venue parler de l'École de Paris 1945-1965, dictionnaire des peintres, dont je recommande la lecture et surtout de s'y référer quand on découvre les œuvres de ces peintres ou quand on les redécouvre, quand on va dans leurs musées, quand on voit leurs toiles, justement, sur les musées, parce qu'il y en a maintenant,
oui, oui, certains y sont,
davantage.
Non, mais ils retrouvent tout à fait leur place. Mais c'est vrai que ça sera long, parce que par rapport à cette période explosive et tellement féconde et d'une richesse tout à fait extraordinaire, beaucoup, bien sûr, sont encore dans l'ombre. D'où la nécessité d'avoir fait ce dictionnaire, parce que c'était la meilleure façon de réunir tous ces artistes. Je ne voulais surtout pas les classer et les mettre dans des petites cases avec des étiquettes parce qu'aucun ne s'y serait retrouvé. Parce qu'il y a eu aussi des parcours qui ont bougé. Je vous parlais de Robérolle. Robérolle est dans une figuration qui est traditionnelle, mais qui ensuite va prendre une autre orientation, beaucoup plus violente et plus matiériste.
Merci Lydia Rambourg. Et au plaisir de vous recevoir pour d'autres livres et d'autres regards.
Merci.